Je vais vous présenter le conférencier de ce soir, Frédéric Pechenard. Il est chef de la brigade criminelle de Paris, professeur associé à l'École nationale supérieure de police. Pour son parcours, il est titulaire d'une maîtrise de droit, en 1981-1983, élève de ENSP, École nationale supérieure de police, pardon. Depuis 20 ans, il est membre de la police judiciaire de Paris. Il a été membre de plusieurs services. Section antiterroriste de la brigade criminelle, sous-chef de la brigade de recherche et d'intervention l'anti-gang, sous-chef de la brigade criminelle. 1996-2000, il a été chef de la brigade de répression du banditisme et depuis avril 2000, il est chef de la brigade criminelle de Paris. Pour ses publications, Frédéric Pechenard est l'auteur d'un roman policier écrit avec Luc Jacob Duvernay, Piège pour un flic, édition Anne Carrière, en 2003. Je vais lui céder la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Merci.
Je voudrais vous dire d'abord, avant de commencer la conférence proprement dite, que je suis assez ému de me retrouver ici ce soir. Quand j'ai accepté de venir à l'Université de Tous les Savoirs, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Je ne suis pas un conférencier professionnel ni habituel. Et je vais donc essayer de vous raconter mes histoires professionnelles de manière la plus vivante qui soit. Je vous prie par avance d'excuser les redites et les difficultés que je pourrais avoir dues éventuellement au trac. Alors dans un premier temps, je vais vous faire une présentation de l'outil qui nous permet de travailler, puis ensuite du travail proprement dit de l'enquête criminelle. Il faut savoir que Paris est une circonscription un petit peu à part au niveau de la police nationale et que notamment le grand chef de la police, c'est le préfet de police. Le préfet de police est l'homme puissant de la capitale en matière de police, police active et police administrative, et il a sous ses ordres l'ensemble des directions de la police. Ce qui fait que nous avons la grande chance à Paris d'avoir un seul chef, ce qui fait qu'incontestablement les choses se passent mieux que quand il y en a plusieurs. Alors, le préfet de police gère donc une boutique qui est énorme, qui est composée, je vous l'ai dit brièvement, de services administratifs, on ne va pas s'apesantir dessus, et de services actifs de la police nationale, que je vais très rapidement vous décrire pour que vous compreniez comment les choses s'articulent dans notre ville. Il y a d'abord la direction de l'ordre public et de la circulation, qui est une unité de police en tenue, qui s'occupe du maintien de l'ordre, des services d'ordre et de la circulation. Vous avez une direction de la police urbaine de proximité, qui est la direction numériquement la plus importante, celle que vous connaissez toutes, c'est les commissariats d'arrondissement et de quartier, là où vous allez porter plainte. Leur mission, c'est la lutte contre la petite et la moyenne délinquance, la surveillance de voie publique, l'intervention de police secours, les actions partenariales de répression, et puis les missions de police administrative. Vous avez la direction des renseignements généraux, qui, comme son nom l'indique, est un service de renseignement, qui fait de la recherche et de l'analyse des informations relatives à la prévention des troubles à l'ordre public et des atteintes au fonctionnement des institutions. Vous avez l'inspection générale des services, la police des polices, qui est chargé de l'inspection de nos services, d'une part, inspection administrative, et des enquêtes judiciaires, quand il y a des erreurs, des fautes, ou des délinquants parmi les policiers. Et enfin, je l'ai dit en dernier, parce que c'est celle qui nous préoccupe, vous aurez compris que dans ma place, elle occupe bien sûr, dans mon cœur, elle occupe bien sûr la première place, c'est la direction régionale de la police judiciaire de Paris, l'APJ, où je suis, depuis 1983, un policier heureux, passionné, et j'espère que ça va continuer encore un petit peu comme ça. Alors, la police judiciaire, c'est quoi? C'est la lutte contre la criminalité et la délinquance, notamment la délinquance organisée et spécialisée. Donc, disons, pour simplifier, les affaires de délinquance et de criminalité les plus importantes, les plus graves en termes de conséquences ou les plus importantes en termes de préjudice ou en termes d'organisation criminelle, et tout ce qui est police technique et scientifique. Voilà, vous avez donc vu que cette direction de la police judiciaire est une partie de l'ensemble préfecture de police. Alors, la direction de la police judiciaire, c'est une vieille dame, comme la brigade criminelle. Elle a été créée en 1913. Elle est compétente à Paris intramuros et également sur les trois départements périphériques, 92, 93 et 94. Son ressort de compétences, 6 millions d'habitants, 2 millions à Paris. Plus ou moins, les chiffres que je vais vous donner sont toujours, à part les chiffres d'homicides qui sont très précis, relativement approximatifs, en eux-mêmes, ils n'ont pas d'intérêt. C'est juste pour avoir un petit peu une idée de l'importance. Et la police judiciaire est composée de 2000 policiers. Il y a à peu près 90 commissaires de police, le reste se partageant entre officiers de police et agents de police, auxquels sont rattachés à peu près 200 agents administratifs qui nous aident pour la gestion quotidienne des tâches administratives, et un peu plus d'une centaine de personnels techniques et scientifiques qui équipent le laboratoire de police scientifique et les services de l'identité judiciaire. Il y a une trentaine de services différents qui composent cette direction de la police judiciaire. La brigade criminelle en est une. Donc vous avez des sous-directions, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un petit peu complexe, mais sachez en gros qu'il y a 30 services qui composent la direction de la police judiciaire, chacun de ces services ayant une mission particulière, soit une mission de police active, c'est le cas de la brigade financière par exemple, de la brigade des stupéfiants, de la brigade de répression du banditisme que j'ai eu l'honneur de diriger et qui s'occupe de la lutte contre la criminalité organisée, la brigade de protection des mineurs, et puis vous avez des services territoriaux, les divisions de police judiciaire à Paris ou les services départementaux de police judiciaire en petite couronne, qui sont des services généralistes de la police judiciaire. Vous avez des services qui sont des services de soutien, qui sont extrêmement importants, et on le reverra dans l'enquête criminelle tout à l'heure, notamment l'identité judiciaire et le laboratoire de police scientifique, et puis un des services, la brigade criminelle. Donc la brigade criminelle, je dirige ce service, est un des 30 services de la direction de la police judiciaire. Je précise ça parce que souvent, les gens ne comprennent pas bien. Ah, vous êtes à la criminelle. Moi, je suis un copain qui est à la PJ. Bon, la police judiciaire, c'est un service beaucoup plus important. Et à l'intérieur de la police judiciaire, vous avez donc des spécialités, dont la brigade criminelle et l'enquête criminelle. Alors, qu'est-ce que fait la brigade criminelle au quotidien? Elle connaît des crimes contre des personnes, essentiellement les atteintes volontaires à la vie, meurtres, assassinats, les enlèvements de personnes. Fort heureusement, nous en avons de moins en moins. Et ce sont généralement des affaires qui ne sont pas trop compliquées à résoudre actuellement, mais il n'y a qu'à voir la situation de pays proches de nous, comme l'Italie ou surtout d'ailleurs comme les Espagnols, pour voir que ce sont des problèmes qui sont extrêmement difficiles à manager, et également les attentats par explosifs. Voilà, très rapidement brossé nos compétences, on reviendra un petit peu dessus. Pour faire ce travail, la brigade criminelle est organisée de manière assez hiérarchisé. Il y a donc un chef à sa tête. Je suis secondé d'un adjoint, ce qui me permet d'être là avec vous ce soir, puisque, après tout, on est aussi là pour parler du travail de la police au quotidien. Je ne suis pas un conférencier, je vous l'ai dit, je suis un flic. Cet après-midi, à 15h, j'étais sur les lieux d'un homicide que j'ai directement quitté pour venir ici. Donc, quand je vous raconterai comment se passe une enquête criminelle, je vous raconterai mon après-midi. Et puis, dans le même temps, donc début de l'enquête criminelle, le transport sur une scène de crime, et dans le même temps, au service, il y a un autre groupe qui est en train de recueillir les aveux d'un criminel. Les aveux d'un criminel, pour nous, c'est la fin de l'enquête criminelle. Donc nous avons en même temps à la brigade cet après-midi l'alpha et l'oméga de l'enquête criminelle. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Il y a 105 policiers actifs à la brigade criminelle qui sont répartis en 4 sections. Chaque section est répartie en 3 groupes d'enquête, ce qui fait en tout 12 groupes d'enquête. Le groupe d'enquête, c'est 6 ou 7 policiers qui sont des gens qui sont des spécialistes de l'enquête criminelle et qui prennent un dossier. Le dossier n'est jamais confié à une personne, elle est confiée à un groupe, à minima. L'enquête la plus simple est confiée au minimum à un groupe. Plus les enquêtes sont compliquées, plus les enquêtes sont sensibles, plus il y a de gens qui vont travailler sur cette affaire. Et une fois que tous les policiers de la brigade criminelle sont pris sur une seule et même affaire, ce qui peut arriver en tout cas ponctuellement quelques fois par an, eh bien, je m'adresse au directeur qui peut éventuellement me donner des gens en renfort. L'enquête criminelle, comme d'ailleurs toute enquête de police judiciaire, c'est un sport d'équipe. C'est la grande différence avec la fiction où vous avez un héros, Maigret, chef de brigade criminelle, qui seul va tout trouver. Moi, tout seul, je ne trouve rien du tout. L'efficacité du service, c'est le nombre. Si on voulait comparer, nous, on est plutôt une équipe de rugby ou un orchestre. Et chacun a sa place. C'est la grande différence et c'est ça qui fait l'efficacité, c'est qu'au même moment, sur une même affaire, 30, 40, 50 inspecteurs qui sont tous, le mot inspecteur n'existe plus, officier de police, excusez-moi, c'est l'habitude, 50, 60 officiers de police qui tous sont des gens qui ont été recrutés, formés, vont chacun de leur côté eh bien, amener une petite pierre à l'édifice et à l'arrivée, eh bien, ça nous fera une enquête criminelle à peu près complète et dans la plupart du temps, réussie. Donc, 12 groupes d'enquête. C'est vraiment la cellule de base. 9 groupes dits de droit commun, avec 3 sections de droit commun, qui s'occupent des affaires d'homicide et des affaires d'enlèvement. Et 3 groupes antiterroristes, qui forment la section antiterroriste, plus spécialement spécialisée dans la lutte contre le terrorisme, en relation bien sûr avec les services de renseignement et la gestion des scènes d'attentats par explosifs, ce qui ne sera pas directement d'ailleurs, je pourrais répondre à des questions si ça vous intéresse tout à l'heure, mais l'idée de la conférence, puisqu'on est sur l'enquête criminelle classique, le meurtre. Alors, la police judiciaire est un service qui est un petit peu à part dans l'organisation de la police nationale, dans la mesure où nous avons deux patrons. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions placés sous l'autorité du préfet de police, c'est le chef, qui lui-même, dans une organisation hiérarchisée, hein, qui lui-même est placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, c'est le patron administratif. Le Code de procédure pénale prévoit dans son article 12 que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République. Donc nous avons également un patron pour les affaires qui est le procureur de la République, ce qui fait que la police judiciaire est placée dans une situation d'avoir deux chefs à qui ils rendent des comptes, donc l'autorité administrative d'un côté, l'autorité judiciaire, procureur de la République, puis lors d'ouverture d'information, juge d'instruction, qui va avoir en compte judiciairement ces enquêtes. Il faut toujours reprendre les textes quand ils sont bien écrits. Quand ils sont bien écrits, c'est qu'ils sont simples. Et j'affectionne particulièrement l'article 14 du Code de procédure pénale, qui explique la mission de la police judiciaire. La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Vous verrez qu'au bout d'une heure et des poussières de conférence avec moi, si vous avez seulement retenu ça, vous aurez tout retenu parce que je ne vais rien vous dire d'autre. Nous constatons les infractions à la loi, nous rassemblons les preuves et nous en recherchons et arrêtons les auteurs. C'est donc une mission qui est extrêmement simple, qui parfois peut être un peu longue et compliquée, mais la mission est simple. Alors, il n'y a pas que des juristes dans la salle, j'imagine. Quand je donne des conférences devant un public bien plus restreint de commissaires de police, ce sont des gens qui ont déjà une certaine connaissance des métiers de la police. Je suis obligé de vous faire un tout petit parcours de droit, ça serait prétentieux, mais il faut savoir que la police judiciaire acte tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que le but de notre action, c'est qu'un jour, quand je dis que l'aveu est la fin de l'enquête criminelle, c'est vrai, c'est pas la fin de notre métier. Notre métier finit un jour devant la cour d'assises, où on va témoigner. Donc on commence notre métier le jour où le parquet, la justice, nous saisit d'un homicide, et on finit notre boulot le jour où on a été témoigné aux assises et où on fait le compte-rendu devant les jurés et les magistrats de notre travail. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, fait l'objet d'un procès verbal qui, comme son nom l'indique, bien sûr, est écrit. C'est-à-dire que toute notre procédure est écrite. Je me déplace, je l'écris. Je fais une recherche au fichier de la sécurité sociale, je fais un PV, je place quelqu'un garde à vue, j'en fais un procès verbal, j'en fais une page d'écriture, si vous voulez. Chaque acte de police judiciaire doit être écrit, ce qui fait que bien, l'enquête criminelle s'apparente à l'écriture d'un livre, qui se lit parfois d'ailleurs avec autant, voire plus d'intérêt qu'un roman policier, et qui est généralement fait par ordre chronologique, le premier acte étant la saisine, le dernier étant le déferrement de l'auteur. Alors, quand nous travaillons immédiatement sous l'autorité du procureur de la République, ça s'appelle un crime flagrant, un crime qui vient de se commettre, et donc nous sommes dans une notion de flagrant délit, ce sont les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, qui donnent à la police un certain nombre de pouvoirs. Si nous sommes saisis par le parquet en dehors de ce crime flagrant, par exemple la découverte d'un cadavre putréfié, à ce moment-là, le crime ne vient pas de se commettre. Le crime est assez ancien, donc il n'y a peut-être pas lieu de donner à la police tout un tas de possibilités juridiques. On est à ce moment-là en enquête préliminaire, toujours sous l'autorité du procureur, article 75 et suivant du Code de procédure pénale. Disons que ce sont les deux cadres d'enquête dans lesquels nous évoluons sous l'autorité du procureur de la République. L'enquête préliminaire, dans le cas où les faits sont anciens, où il n'y a pas une urgence particulière à intervenir, où là il faut se souvenir que la police a peu de moyens, peu de possibilités juridiques et notamment peu de moyens de coercition, par exemple, pas de perquisition possible, sauf assentiment de la personne, pas de pouvoir d'arrestation, et le flagrant délit, bon ben là il se passe quelque chose, quelqu'un vient d'être tué, il y a une émotion, donc pendant une durée de 8 jours, la police, sous l'autorité bien sûr du procureur de la République, a tout un tas de pouvoirs, et notamment le pouvoir de perquisitionner, d'interpeller des gens, de les placer en garde à vue, etc. Donc on a, à ce moment-là, plus de facilité, si vous voulez, pour travailler. Entre parenthèses, j'en profite, le mandat de perquisition est quelque chose qui n'existe pas. Bien souvent, les gens ont des idées sur la police parce qu'ils regardent des films policiers, ce qui est bien, mais combien de fois ça nous arrive qu'on arrive chez des gens dans le cadre d'un flagrant délit où là nous n'avons rien, nous n'avons même pas de papier parce que c'est l'urgence, il faut faire les choses rapidement, et on dit bon, on va procéder à la perquisition chez vous, la personne dit bah, bien sûr, aucun problème, montrez-moi votre mandat de perquisition. Donc la première difficulté, c'est de lui faire comprendre qu'on est des vrais policiers et qu'on n'a pas de mandat pour plusieurs raisons et que notamment parce que ça n'existe pas. Une fois que la notion de crime flagrant est passée, les 8 premiers jours, la possibilité de travailler en flagrant délit s'effondre et on tombe en enquête préliminaire, donc avec moins de pouvoir, plus de difficultés, impossibilité de faire des écoutes téléphoniques, etc., etc. Généralement, dans le cadre de l'enquête criminelle, le procureur de la République choisit à ce moment-là d'ouvrir une information, de confier l'enquête à un juge d'instruction. À ce moment-là, le procureur n'a plus autorité sur l'enquête, c'est le juge qui va diriger l'enquête et qui va nous délivrer une commission rogatoire. Là, par contre, il y aura un papier qui nous permettra, en gros, d'avoir les mêmes pouvoirs que le juge d'instruction et de continuer sous son autorité l'enquête avec même les pouvoirs les plus étendus, puisque notamment actuellement, alors c'est un petit peu en cours de discussion au Parlement en ce moment, mais actuellement, par exemple, des écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées que par un juge d'instruction et dans le cas d'une information judiciaire. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on s'articule, grosso modo, à la brigade criminelle, 99% des affaires, on est saisi en flagrant délit, on travaille pendant 8 jours en flagrant délit sous l'autorité du parquet. Si on a de la chance, on a arrêté le tueur pendant ce temps-là, c'est assez rare compte tenu des affaires qui nous sont confiées, on reviendra dessus. Et après, au bout de ces 8 jours, on transmet l'enquête de flagrance, donc tous les procès-verbaux que nous avons faits au procureur de la République, il les lit, qui ouvre une information, le juge d'instruction nous délivre une commission rogatoire et on continue notre travail sur commission rogatoire du juge. Alors, pareil, et puis après je vous promets que je ne vous le dirai plus, mais je pense que c'est important puisque tout ce que nous faisons est régi par le code de procédure pénale ou le code pénal. La police judiciaire est la police la plus transparente qui soit, c'est facile, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on peut faire, c'est dans le code de procédure ou dans le code pénal. Code de procédure, c'est comment on va le faire. Le code pénal, ce sont les infractions. Alors, quelles sont les infractions sur lesquelles nous, on travaille? C'est l'article 221.1 du code pénal, puis 221.2, 221.3 et 221.4, qui dit premièrement que donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Donc le meurtre, c'est un homicide volontaire. Que si le meurtre est commis avec préméditation, c'est un assassinat. Là aussi, je pense que c'est important de faire la différence entre l'un et l'autre. Donc, un assassinat, c'est un meurtre avec préméditation. L'intérêt, bien sûr, c'est la peine, la réclusion criminelle de 30 ans pour le meurtre, la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat. Le meurtre, qui est également, c'est l'article 221.2, qui accompagne un autre crime, par exemple un viol qui sera suivi d'un meurtre, bien que ce ne soit pas un assassinat, mais est également passible de la réclusion criminelle à perpétuité. La réclusion criminelle à perpétuité, ce n'est pas pour toujours la perpétuité, c'est pour un certain temps. La période de sûreté automatique est de 18 ans, donc quoi qu'il arrive, la personne condamnée à perpétuité, ce qui est quand même assez souvent le cas des gens que nous arrêtons, ne peut pas sortir avant 18 ans. La cour d'assises peut, par décision spéciale, prolonger cette période de sûreté jusqu'à 22 ans et, en cas d'assassinat d'enfants avec acte de torture et de barbarie, jusqu'à 30 ans. Donc, si vous voulez, au maximum, quelqu'un en France peut être amené de manière certaine, s'il assassine un enfant, à passer 30 ans en prison. Ce qui ne veut pas dire qu'il sortira automatiquement au bout de 30 ans ou au bout de 22 ans pour les autres homicides. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on pourra éventuellement le faire sortir et le laisser en libération conditionnelle. Alors, avant de parler de l'enquête proprement dite, je vais vous donner quelques données de statistiques, de chiffres, pour savoir que bien, les homicides ne sont pas très importants en termes quantitatifs, même s'ils le sont naturellement en termes qualitatif. Il y a peu d'homicides dans notre pays, et peu à Paris, et ça c'est une bonne nouvelle. Ils ne bougent pas tellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'augmentation des homicides de manière aussi significative que dans les dernières années d'autres catégories, et ils représentent bien sûr une part extrêmement réduite statistiquement de la délinquance. À Paris, prenons Paris, en 2001, il y a eu 49 homicides. Vous voyez, à peu près un par semaine. Il y a eu à Paris, dans le même temps, en 2001, 310 000 crimes et délits. Donc on a une activité qui statistiquement est nulle, bien que ce soit les faits les plus graves. En 2002, période faste, nous n'avons eu à Paris que 31 homicides. Et en 2003, pour les 9 premiers mois, je vous donne en avant-première mes chiffres, nous avons eu 38 homicides, ce qui fait que si, comme c'est sur les 9 premiers mois, en faisant une règle de 3 rapidement faite, on arrive à peu près 50 homicides potentiels. On s'aperçoit grosso modo que le chiffre des homicides dans les 10 dernières années tourne à Paris intramuros aux alentours d'une cinquantaine d'homicides. Si on prend le ressort territorial de la direction de la police judiciaire, donc Paris et les 3 départements, c'est pareil, on a quelque chose qui est relativement stable et qui tourne aux alentours de 150 homicides. 143 homicides pour l'ensemble du ressort, c'est-à-dire Petite Couronne et Paris, en 2001. 145 homicides en 2002. Assez curieusement, la baisse parisienne a été compensée par une légère hausse de la Petite Couronne. Et pour l'instant, sur les 9 premiers mois 2003, 103 homicides, ce qui nous pousserait, mais la statistique et le systématique n'existent pas dans notre métier, à peu près 137-140 homicides à la fin de l'année. Donc vous voyez, on est dans des chiffres qui sont stables et qui ne sont pas extrêmement importants. Je me suis également fait communiquer, je ne les connaissais pas, mais les chiffres du nombre d'homicides en France, qui tournent autour de 1000 par an. 1046 en 2001, 1119 en 2002, 755 pour les 9 premiers mois de l'année 2003. Voilà. Alors, le taux de réussite de ces affaires d'homicide est assez important. C'est, je crois, le meilleur taux d'élucidation, toutes causes confondues, de l'ensemble des actes de délinquance et de criminalité, ce qui est normal, puisque ce sont objectivement les faits les plus graves. Donc, c'est ceux sur lesquels on va mettre le maximum de moyens. Et je ne résiste pas au plaisir de vous donner le chiffre de 80% pour les 9 premiers mois de l'année 2003. Ces chiffres sont un tout petit peu moins bons, mais du même ordre. Je parle sur l'ensemble de la France, en 2002, 75%, en 2001, 77%. Ce qui fait que nous avons un coefficient de réussite dans le domaine de l'homicide qui est très important, avis aux éventuels tueurs impunis. Normalement, on devrait vous rattraper. Alors, comment est-ce qu'on est aussi bon? Comment est-ce qu'on arrive à faire des choses aussi fortes? Qu'est-ce que c'est d'abord que la réussite d'une enquête criminelle? Il y a 3 facteurs pour réussir une enquête criminelle. La méthode, l'expérience, les hommes, et malheureusement, il y a une part de chance et une part de hasard. Vous pouvez avoir une méthode qui est parfaite, qui est éprouvée, avec des professionnels, et là, il faut... En faisant ça, en suivant une méthode rigoureuse avec des gens qui sont spécifiquement formés à l'enquête criminelle, vous réduisez la part de chance et de hasard. Cette part, elle existera toujours. Pour nous ou contre nous. On me pose de temps en temps la question, le crime parfait existe-t-il? La réponse est non. Il y a des gens qui s'en sortent, mais le crime parfait n'existe pas. Il y a des gens, il y a des assassins qui ont pris toutes les précautions et puis ils ont, tant mieux pour nous, pas eu de chance. Parce qu'à 4 heures du matin, il y avait une petite mémé insomniaque qui était derrière ses volets, qui a vu, et coup de chance, alors qu'elle ne répond jamais à personne, eh bien, ça a été une charmante jeune femme d'objet criminel qui est venue sonner à sa porte, et puis elle voulait se mêler de rien, mais la charmante jeune femme d'objet criminel a insisté, a pris le café avec elle, ils sont restés une heure ensemble, et au bout d'une heure, la petite mamie a dit « Ah, j'ai peut-être vu quelque chose ». Voilà. Si on n'a pas cette chance, chance qui est également d'ailleurs bien aidé, bien alimenté par le travail de fourmi qu'on peut faire sur l'enquête, eh bien, on peut passer malheureusement à côté. Et ça, c'est quelque chose, le facteur chance, réussite, hasard, est quelque chose qu'il faut réduire au maximum, mais vous ne savez pas pourquoi, enfin, vous savez tous ça très bien, parce que dans vos vies personnelles, dans la mienne, dans vos métiers, c'est comme ça, il y a des jours où tout va bien, vous êtes le meilleur du monde, vous vous prenez pour quelqu'un de formidable, et puis le lendemain, au contraire, tout va mal, tout ce que vous faites est mal interprété, mal compris, rien ne fonctionne, etc., etc., etc. Alors, la méthode, eh bien, elle est simple, c'est d'avoir des gens spécialisés dans l'enquête criminelle qui ne font que ça. Les gens de la brigade criminelle sont des policiers qui ont entre 30 et 55 ans. Nous ne prenons pas de gens trop jeunes. Nous ne prenons pas de gens qui sont directement sortis des écoles de police, que ce soit les commissaires, les officiers ou les gardiens de la paix. Nous prenons des gens qui ont déjà un passé de réussi dans un service d'investigation, quel qu'il soit. On prend ces fonctionnaires en stage pendant 15 jours. Ils voient un petit peu notre travail. On voit ce qu'ils sont capables de faire. Parfois, il y a des gens qui arrivent plein d'enthousiasme et l'idée d'arrêter des assassins. Et puis, ils peuvent se retrouver pendant des mois avec un casque pour faire des écoutes téléphoniques ou pour décrypter des listings de téléphones portables ou autres. L'enquête criminelle est un travail de fourmi, une enquête de longue patience. Donc, il y a des gens à qui ça ne convient pas. Et puis, donc, nous faisons un petit peu un tri. Comme c'est un service qui est passionnant, quand on est policier, généralement, les gens de la police judiciaire sont des gens qui aiment leur métier, qui aiment l'enquête, qui aiment le travail. Et évidemment, travailler sur les faits les plus graves, que sont les homicides, c'est une mission que je qualifierais de presque sacrée, qui évidemment sont des choses qui poussent les gens à venir. Donc il y a beaucoup de candidats pour venir à la brigade criminelle, ce qui permet d'avoir une très bonne sélection de gens. Je peux ajouter qu'on ne gagne pas un franc de plus à la brigade criminelle que dans un autre service, que la gestion des carrières, et notamment les gens ne passent pas plus vite à des grades supérieurs. Donc la seule chose qui peut motiver les gens de mon service à venir à la brigade criminelle, c'est l'intérêt et l'envie de travailler. Alors l'expérience, ce sont les hommes. Il n'y a pas de manuel d'enquête criminelle, il n'y a pas de gens qui vous expliquent comment on fait spécifiquement une enquête criminelle, quoique bien sûr on soit formé dans les écoles de police, mais après c'est surtout sur le terrain. Disons qu'on a une organisation à l'intérieur du groupe. Quand vous commencez jeune lieutenant, jeune officier à 25-30 ans, homme ou femme à la brigade criminelle, vous êtes affecté, vous êtes ce qu'on appelle le sixième de groupe. Et puis vous allez monter au fur et à mesure des années dans la hiérarchie du groupe et des groupes, parce que vous allez changer de groupe pour que chacun s'enrichisse des expériences que les uns et les autres peuvent avoir. Vous allez être cinquième de groupe, quatrième de groupe, troisième de groupe, seconde groupe, puis chef de groupe. Ce qui fait que le chef de groupe, qui est le véritable maître de l'enquête, la cheville ouvrière de l'enquête, est quelqu'un qui vient de passer, quand je le nomme, puisque c'est mon redoutable privilège de choisir les hommes qui vont diriger les enquêtes, quand je nomme, il a passé entre 15 et 20 ans à la brigade criminelle. Donc c'est quelqu'un qui a une énorme expérience. C'est important, cette hiérarchie, ça vous paraît peut-être un peu futile, 6e, 5e, etc., mais chacun, notamment au moment de la scène de crime, a un travail spécifique et prévu à l'avance. Ce qui fait que si un jour vous êtes sur une scène de crime, vous allez voir les gens de la brigade criminelle qui arrivent, je ne donne pas d'ordre, on ne crie pas, on n'est pas en ordre, chacun sait déjà ce qu'il a à faire. Par exemple, le troisième de groupe, qui est le procédurier, est celui qui va faire les constatations, on en parlera tout à l'heure, rapidement, les constatations sur la scène de crime proprement dite, qui va également mener juridiquement les techniciens de scène de crime et procéder au scellé. Pendant ce temps-là, le sixième et le cinquième de groupe commenceront l'enquête de voisinage. Je parle bien sûr d'une affaire classique, sinon il peut y avoir plus de monde. Ça aussi, c'est mon boulot d'apprécier s'il y a assez de monde ou pas assez de monde sur une enquête. Alors nous allons maintenant parler de l'enquête criminelle proprement dite, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on fait. La première phase, qui est la phase... Il n'y a pas de phase importante, pas importante. Toutes les phases de l'enquête criminelle sont importantes. Il y a celles sur lesquelles on ne peut pas revenir et celles qu'on peut refaire. Donc nous sommes particulièrement attentifs aux ratés éventuels sur les pratiques d'enquête sur lesquelles on ne peut pas revenir. Par exemple, un témoin, on va l'interroger une première fois, mal, insuffisamment, on pourra le convoquer le lendemain, le surlendemain, quatre jours après, le réentendre. Par contre, la scène de crime, par nature, va se modifier et se modifier assez rapidement. Donc, ce que vous avez raté comme prélèvement au départ, ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas fait, eh bien, c'est un trou. Et après, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, devant les assises, eh bien, on dira, mais tiens, c'est curieux, pourquoi ça n'a pas été prélevé, qu'est-ce que c'est que ça, il y avait une piste, elle n'a pas été exploitée, etc., etc. Donc il faut être particulièrement vigilant sur la méthode, il faut être très exigeant dans la rigueur procédurale, notamment sur la scène de crime proprement dite, avec la difficulté que généralement, au moment où on arrive sur une scène de crime, eh bien on est tout sauf calme, et la scène de crime, c'est tout sauf un endroit calme. Donc il faut être à la fois très professionnel, très rapide, et ne rien oublier. La quadrature du cercle. Donc la première chose, transport sur les lieux. Donc ça veut dire qu'on va se déplacer. Comment ça se passe? Ben, je vous donne l'exemple de cet après-midi. Je suis dans mon bureau, en train de préparer la conférence. Le substitut du procureur m'appelle en me disant « Voilà, j'ai été appelé par la police urbaine de proximité du 6e arrondissement. Ils ont été appelés eux-mêmes par une personne qui, à l'intérieur d'une maison, a découvert un cadavre. Je me suis déplacé. J'estime que c'est une affaire criminelle. J'estime qu'elle est compliquée. Je vous la confie. » Donc nous sommes saisis d'une enquête criminelle par le parquet. On n'est pas saisi de toutes les affaires d'homicide. Par exemple, le mari qui tue sa femme, qui appelle la police en disant « j'ai tué ma femme ». Ce genre d'enquête, il n'y a pas d'enquête à proprement parler, puisque le coupable est immédiatement identifié, donc nous ne sommes pas saisis de ces affaires-là. Nous ne sommes saisis que des affaires dites à énigme, qui nécessitent une enquête criminelle. Donc en l'occurrence, le magistrat du parquet m'appelle et me saisit en flagrant délit de cette affaire. Donc nous avons une organisation qui est assez simple. Pour les groupes de droit commun, ils sont 9. Ils sont de permanence un jour et une nuit tous les 9 jours. Et ils ont également un groupe de renfort immédiatement exploitable. Donc la première cellule va se déplacer tout de suite, c'est-à-dire le groupe de permanence, le commissaire de permanence, le chef ou l'adjoint, en l'occurrence moi, et la permanence de l'identité judiciaire, 3 personnes. Donc ce sont des gens qui n'appartiennent pas à la brigade criminelle, qui sont des techniciens de scène de crime, et qui, eux, vont nous apporter un concours pour prélever un certain nombre de choses. Eux, comment dirais-je, ils vont les prélever techniquement, et nous, on les placera juridiquement sous scellés. Donc, le premier transport, c'est une douzaine de personnes. En l'occurrence, cet après-midi, les lieux étaient assez vastes. Il y avait éventuellement une enquête de voisinage. Il y avait quelques pistes qui pouvaient immédiatement se déclarer. J'ai donc fait venir un deuxième groupe pour qu'on ne soit pas trop peu nombreux. Donc, on se déplace. C'est très important pour tous les gens qui vont participer à l'enquête d'aller sur la scène de crime. C'est une période qui est toujours stressante, même si on ne s'en aperçoit plus au bout d'un moment. Je racontais tout à l'heure que quand on va sur une scène de crime, j'ai dû aller sur à peu près 400 scènes de crime depuis que je suis dans la police, ou en tout cas 400 découvertes de cadavres. Au bout d'un moment, on s'habitue. On ne s'habitue jamais vraiment. Il y a toujours des choses qui vous choquent, les enfants et autres. Mais finalement, on s'attend un petit peu à ce qui va se passer. Mais un jour, j'avais découvert un cadavre alors que je ne m'attendais pas à le voir et j'avais été assez surpris, assez choqué. Donc c'est vrai que, malgré nous, on sait qu'on va sur une scène de crime, donc on se prépare à voir cette chose-là, ce qui permet tout de même de s'y habituer parce que c'est jamais quelque chose qui est complètement neutre de voir quelqu'un qui a été tué dans des conditions qui, généralement, sont des conditions de violence. Et puis, très rapidement, on va intégrer l'intimité de la victime, ce qui est parfois toujours un petit peu délicat. La première chose à faire quand on se transporte sur les lieux, c'est de vérifier qu'il y a bien un périmètre de sécurité. Nous ne sommes pratiquement jamais, même jamais, les policiers les premiers intervenants. Il y a toujours la police secours, qui est les premiers, les policiers en tenue, qui sont très importants pour nous, plus les officiers de police judiciaire en civil du commissariat. Et c'est eux qui vont généralement nous raconter l'histoire, au moins au début, puisque le but de ce transport et de la première prise de contact, c'est de se faire une idée rapide sur l'affaire. Combien il faut avoir de monde? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un homicide? Quand on a l'habitude de voir des affaires d'homicide, on se fait une idée. D'autres policiers, d'autres personnes n'auront peut-être pas la même idée. Par exemple, on a été il n'y a pas très longtemps sur une affaire dont on avait été saisi, d'une femme qui était morte, il y avait du sang partout, elle était elle-même couverte de sang, tout était tourneboulé, sens dessus-dessous dans l'appartement, la porte était claquée, donc on pouvait légitimement penser à une scène criminelle. Bon, en fait, on s'est aperçu que ça pouvait être compatible avec une hémorragie digestive, puisqu'elle, visiblement, avait beaucoup de sang dans la bouche, il y avait le fait que tout soit un petit peu chamboulé. D'une part, c'était quelqu'un qui rangeait pas très bien ses affaires, on l'a su tout de suite grâce à la concierge, d'autre part, en mourant, elle s'était un petit peu débattue. L'autopsie, demandée immédiatement le lendemain, nous a permis de démontrer le caractère naturel de cette mort. À ce moment-là, l'enquête est évidemment beaucoup plus restreinte, mais c'est la première question qu'il faut se poser. Parfois, des scènes qui ont l'air d'être un homicide peuvent être un accident, peuvent être un suicide. De la même façon d'ailleurs, que le contraire peut être exact aussi, vous pouvez avoir des suicides ou des accidents qui sont en fait des homicides déguisés. Quand le magistrat du parquet a un doute, il fait venir un observateur de la brigade criminelle, qu'elle soit le commissaire de police, soit le chef de groupe, et nous donnons notre avis, qui n'est naturellement pas tenu de suivre. Mais c'est vrai que nous avons été parfois saisis de suicides ou d'accidents parce qu'on pouvait voir derrière un maquillage et un véritable homicide. Donc, on va sur place, on se transporte, on fait un périmètre de sécurité, on prend contact avec les premiers intervenants. Il faut savoir que sur une affaire d'homicide, vous pouvez avoir jusqu'à 1000 personnes qui vont à un moment ou à un autre avoir travaillé sur cette enquête criminelle. Alors bien sûr, les policiers de la brigade criminelle sont ceux qui vont le prendre du début à la fin, mais il va y avoir le pompier, le médecin légiste, le policier, les gens du SAMU, les policiers premiers intervenants, etc., etc. Puis après, dans les réquisitions, tous les gens qui vont nous aider, les laboratoires polytechniques et scientifiques, etc. Donc sur place, parfois c'est très simple. Aujourd'hui, c'était très simple. Il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait personne quand on arrive, il y a juste des policiers. Il était visiblement mort de mort violente. Donc, comme il n'était pas blessé ou comme il n'y avait pas un doute, la police n'avait pas fait appel, ni la famille d'ailleurs, à les services de secours et d'urgence. Mais la première chose, c'est de savoir qui est venu, qui est entré, qu'est-ce qui a été fait. Parfois, vous apercevez que dans un studio, avec une personne tuée, peut y avoir eu jusqu'à 34 personnes différentes qui y sont rentrées. C'est le chiffre qui me revient parce qu'on avait trouvé une empreinte digitale, une trace papillaire qui pouvait être intéressante, qui n'appartenait pas à la victime qui habitait seule dans son studio. Donc ça pouvait être, bien sûr, celle de l'assassin. Ça pouvait être aussi celle du pompier, du médecin du SAMU, du policier premier intervenant, du magistrat de permanence. Bien sûr, pas de la brigade criminelle, on met toujours des gants. En tout cas, on essaye. Et puis des petites cagoules pour que nos cheveux ne tombent pas et des surbottes pour éviter de laisser des empreintes ou des choses pareilles. Et donc, il a fallu retrouver toutes les personnes qui étaient intervenues, les 34, pour les désincriminer, c'est-à-dire pour prendre leur empreinte digitale. C'était aucune des 34, donc tout le monde avait fait correctement son travail. On avait donc, peut-être, l'enquête, la trace papillaire de l'assassin. Alors, on se déplace, on est sur la scène de crime, on va sur la scène de crime ressentir un certain nombre de choses. On va emmagasiner beaucoup d'informations, et cette affaire, on va peut-être la garder très très longtemps. L'affaire la plus ancienne sur laquelle on travaille aujourd'hui est une affaire de 1986, une affaire qui est toujours actuelle. Nous allons procéder à une interpellation demain matin dans cette affaire. Je ne sais pas si c'est l'auteur ou pas, mais ce sont des enquêtes qu'on peut garder très très longtemps. Et puis, on a parfois la chance de résoudre dans l'après-midi, dans la journée, l'enquête. La règle, c'est qu'on ne referme pas les enquêtes criminelles, ou le moins possible, pour éviter notamment la prescription. Vous savez que la prescription est 10 ans après le crime, mais en fait pas après le crime, après le dernier acte d'enquête. Donc tant qu'on continue à enquêter, tant qu'il y a un acte d'enquête, eh bien la prescription sera prolongée de 10 ans. Donc nous allons être sur la scène de crime, nous imprégner, voir les premiers témoins qui ont été relevés, et à ce moment-là, il faut un petit peu de monde. C'est là où parfois peut y avoir des loupés sur une enquête criminelle quand elle a été faite par des gens qui ne sont pas des spécialistes. C'est qu'il n'y a parfois pas assez de monde quand les magistrats saisissent un service qui n'est pas un service réellement spécialiste de l'enquête criminelle, puisqu'il va falloir faire plusieurs choses en même temps et les faire bien. La priorité, ça va être les constatations sur la scène de crime. C'est-à-dire qu'on va fixer la scène de crime. Pour le faire, bien sûr, en prendre des photos, l'identité judiciaire, mais également... Le procédurier va décrire minutieusement tout ce qu'il voit sur la scène de crime. En gros, quand c'est dans un appartement, comme c'était le cas aujourd'hui, on est bien, on n'est pas pressé, il n'y a personne à l'extérieur, il n'y a pas de pluie, on a de la lumière, ils y sont encore, on va y passer la nuit, peut-être demain matin. Bref, là, on prend notre temps, on n'est pas pressé. Dans d'autres circonstances, ça peut être plus compliqué, quand c'est sur la voie publique, dehors, je pense à des policiers assassinés Place de la Nation, où vous avez beaucoup de policiers autour, où il pleut. Donc la pluie va diluer le sang, il y a beaucoup de gens qui peuvent apparaître autour, sur un attentat, énormément de journalistes qui viennent, les autorités qui viennent, etc. Donc là, on a intérêt à préserver la scène de crime autant qu'on peut, mais à aller vite, puisqu'on ne pourra pas, par exemple, laisser les corps de quelqu'un d'assassiné pendant 2 jours et 2 nuits sur la place de la Nation, où on ne pourra pas la bloquer non plus intégralement. Donc il faudra, à ce moment-là, mettre plus de monde et aller plus vite et faire différemment. Il y a également des endroits où c'est plus compliqué. Quand vous prenez un homicide dans une cité sensible de banlieue, il faut prévoir beaucoup de monde, et surtout beaucoup de monde en termes pour la protection même des enquêteurs, pour qu'on puisse tranquillement faire des constatations. Ce n'est pas toujours simple, donc il y a des choses, les scènes de crime ne se ressemblent pas. Donc quand on est dans des conditions, excusez-moi ce mot, confortables, ben on en profite, sinon on ramène plus de monde et on essaye d'aller un petit peu plus vite. En tout état de cause, il ne faut passer à travers rien du tout. Alors, comment on fait des constatations? C'est simple, l'enquête criminelle, c'est, j'appelle ça l'escargot, c'est-à-dire qu'on part d'abord géographiquement du centre, c'est-à-dire de la personne qui est tuée, de la victime. On décrit la victime, comment elle est, comment elle est morte, et petit à petit, on s'éloigne géographiquement de la victime en décrivant ce qui est aux alentours et en prélevant ce qui est aux alentours. A priori, tout ce qui est autour de la victime, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Il n'est d'ailleurs pas inutile de savoir si la victime a été tuée là ou a été apportée, mais enfin, ça, c'est d'autres problèmes. Et puis, on s'éloigne, dans le cas d'un appartement comme aujourd'hui, tout autour de l'appartement, puis on fait toutes les pièces de l'appartement, et puis, s'il faut, on fera également, en termes de constatation, on ira beaucoup plus loin. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui est tué avec une arme à feu, eh bien, on va rechercher l'arme à feu. Généralement, les gens qui tuent avec une arme à feu l'emportent avec eux, mais s'en débarrassent assez rapidement pour éviter d'être interpellés avec. Donc, il faudra penser à faire le vide ordures, il faudra penser à faire les poubelles, il faudra penser à faire les bouches d'égout, ce qu'on fait systématiquement et assez rapidement, avec bien sûr les égouttiers, les spécialistes, parce que souvent, on trouve des choses qui sont extrêmement importantes. Donc, tout ça va être minutieusement décrit, et ce que nous recherchons surtout, ce sont des traces sur les constatations. Donc, le procédurier avec un ou deux gars de la brigade criminelle, plus les techniciens de scène de crime de l'identité judiciaire, sont sur une scène de crime à la recherche de traces et indices. Des empreintes digitales, bien sûr, mais surtout des empreintes génétiques. Quand un assassin est sur une scène de crime, il laisse toujours quelque chose. Et de plus en plus, si la scène de crime a été violente, il peut avoir craché, il peut avoir laissé du sperme s'il a violé la personne, il peut avoir laissé un vêtement, il peut avoir laissé un peu de peau sous les ongles de la victime, il peut avoir lui-même laissé des propres cellules sur la victime en l'étranglant, par exemple, il peut y avoir eu une bagarre, il a légèrement saigné, bref, il va falloir prélever, sans savoir, a priori, tout ce qu'on peut prélever, pour un jour ou l'autre pouvoir caractériser un ADN et que cet ADN nous permette de confondre ou d'éliminer un suspect. Alors, un petit mot sur l'ADN, ce n'est pas quelque chose qui est miraculeux, ce n'est pas quelque chose qui remplace l'enquête criminelle, c'est quelque chose qui a aidé énormément l'enquête criminelle. Les empreintes, ça a 100 ans, l'ADN, ça en a 10. On est encore au balbutiement, même si maintenant la technique a quand même bien évolué, qu'on maîtrise techniquement assez bien ces choses-là. Il faut savoir que ça ne désigne pas un coupable. Je vous donne un exemple, on a pris une affaire d'homicide, une femme visiblement violée et égorgée, donc on a fait un certain nombre de prélèvements. Nous avons trouvé à l'autopsie, les prélèvements ont été faits, notamment les prélèvements de sperme à l'intérieur de cette malheureuse victime. Et à partir de ce sperme, nous avons caractérisé un ADN nucléaire, deux ADN, l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. Disons que l'ADN nucléaire, c'est celui qui est comporté dans le noyau de la cellule. Et celui-là, il est pour nous absolument parfait parce qu'il désigne de manière systématique un individu, alors que l'ADN mitochondrial, qui est intéressant aussi, parce que, par exemple, un cheveu qui tombe sans bulbe, vous n'avez pas d'ADN nucléaire, vous avez un ADN mitochondrial, c'est intéressant en termes d'enquête, il est moins discriminant, puisque toute une même famille, par la mère, aura le même ADN mitochondrial. Donc, on a un ADN nucléaire, et on arrête un suspect. Ce suspect, qui nous ment dans un premier temps, est le titulaire de l'ADN. Bien, qui on a? On a le tueur? Peut-être. On peut avoir aussi le violeur, et que le violeur ne soit pas le tueur. Ou on peut avoir le petit ami de la victime, son amant, qui a fait l'amour avec elle 2 ou 3 heures avant, et puis quelqu'un d'autre est venu la violer et le tuer. En l'occurrence, c'était le cas, et il nous avait menti dans un premier temps, puisque lui-même étant marié, c'était son amant, ça le gênait de dire qu'il connaissait la victime. Mais quand vous êtes enquêteur, et que vous avez un type en face de vous qui vous dit « Moi, cette femme, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, je ne suis jamais allé chez elle », et que vous avez son ADN, vous commencez vaguement à vous dire que ça sent bon. C'est pour ça qu'une des qualités premières de l'enquêteur en termes d'enquête criminelle, c'est le doute. Moi, j'ai été, mais sûr, à 150%, à mettre ma tête sur le bio de la culpabilité de quelqu'un, et ce n'était pas lui. Et vice-versa. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il faut avoir vécu ça. Il y a des coïncidences qui sont hallucinantes. Il y a des témoins qui vont se tromper et plusieurs de bonne foi. C'est pour ça qu'une bonne enquête criminelle, c'est une enquête où il y a une multitude, dans le cadre de l'enquête, d'indices et de faisceaux, de présomptions qui vont aller en entonnoir vers un individu. Et pour ça, l'ADN nous aide beaucoup. Mais l'ADN, c'est une question d'interprétation, comme l'empreinte digitale. Quand le technicien de scène de crime va relever le poignard planté dans le cœur de la personne et qu'on va trouver une empreinte digitale, vous n'aurez pas l'empreinte du tueur, vous aurez l'empreinte de quelqu'un qui, à un moment donné, a touché le couteau. Voilà, ça c'est très très important à comprendre pourquoi l'ADN n'est pas magique, ne remplace pas l'enquête, mais est par contre une aide phénoménale à l'enquête et normalement nous, et aussi nous permet d'éliminer des suspects. Et ça c'est le plus important dans l'enquête criminelle, c'est que vous avez plusieurs pistes, on va travailler sur toutes ces pistes-là, et puis petit à petit, il va falloir, comme on dit en jargon policier, fermer des portes jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule piste qui normalement est la bonne. Donc on cherche sur place, sur ces constatations, des traces et des indices, le sang, le sperme, les poils, les cheveux, j'en ai parlé, les autres débris, ça peut être de la terre, ça peut être n'importe quoi. Souvent, on ne sait pas ce qu'on saisit. Seul le laboratoire nous le dira, dans le doute, on saisit large. Après ça, une fois que ces constatations sont terminées, nous allons faire une perquisition chez la victime. Alors ça, c'est toujours un peu choquant. Ça ne gêne pas quand la victime est tuée chez elle, puisque finalement la perquisition est la suite logique des constatations. On est déjà dans les lieux, on a investi. Là, on a constaté les constatations. Je ne résiste pas à vous faire part du latin que je connais. Ça vient du latin constate, il est certain. C'est-à-dire qu'il faut être d'une objectivité totale. Hein. Il ne s'agit pas de dire oh là, il y a une abominable traînée de sang, mon Dieu, c'est horrible. Il s'agit de dire il y a des traces rougeâtres, on ne sait pas si c'est du sang, on ne sait pas ce que c'est. C'est une photographie. Donc il faut bien être sûr. Et après, derrière, tout ça, c'est des choses qu'on va voir. On va faire une perquisition. Le premier acte d'une enquête criminelle est la perquisition chez la victime. Alors si ça se passe à l'extérieur, dans un lieu public, dans la rue, eh bien, le premier acte des enquêteurs, ça va être de se transporter au domicile de la victime. C'est pour ça qu'on n'apprend jamais aux gens par téléphone qu'il y a quelqu'un de leur famille qui a été assassiné. C'est humainement impossible. C'est d'ailleurs un des aspects les plus désagréables du boulot. Quand les gens sont célibataires, c'est plus facile. Donc, on va chez les gens, on annonce à une famille que le père, la mère, le fils a été assassiné. Et puis, bien sûr, ce sont des gens qui sont extrêmement importants parce que ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est que l'enquête criminelle, c'est une enquête sur la victime. Il y a, dans 9 cas sur 10, un lien entre la victime et l'auteur. Et par définition, on ne connaît pas l'auteur. Donc, si en travaillant sur la victime, le passé de la victime, et bien sûr son passé récent, les fréquentations de la victime, son train de vie, et également, parfois, sa vie cachée, qu'on arrivera à trouver un mobile qui nous mettra en liaison avec l'auteur. Donc ça peut évidemment frapper un petit peu les gens. Vous êtes une victime, on vient vous annoncer que votre mari a été assassiné, et la première chose que la police fait, pas de vous considérer comme un suspect, bien sûr, mais de vous entendre, parce que bien sûr, on va commencer par entendre les proches, et puis effectuer une perquisition. On a besoin, le plus rapidement possible, d'un maximum d'informations sur la victime. Donc dans le même temps, si vous voulez, les constatations, on va prendre l'hypothèse de cet après-midi, qui est un bon travail. Donc, on est en train de faire les constatations. Dans la foulée, on fait la perquisition, là, qui doit être en train de se faire à l'heure où je vous parle. On a entendu les témoins sur place, et il y a un groupe qui fait dans le même temps l'enquête de voisinage. C'est-à-dire qu'on va interroger les voisins du dessus, les voisins du dessous, les voisins d'en face, la concierge, les gens qui habitent en face, de l'immeuble en face, parce qu'ils ont peut-être vu quelque chose à travers. Et puis, bien sûr, après, on va aller un petit peu plus loin si on n'a toujours rien. On va interroger le postier, les policiers locaux, bien sûr, qui sont des partenaires importants pour nous, les postiers, les gens qui passent toujours à la même heure. Alors, bien sûr, cette enquête de voisinage qui est très importante, on va la conduire sur plusieurs jours et parfois sur la même période de temps. On a eu une affaire d'homicide sur un pont qui se passe à 6 heures du matin. Femme qui est agressée et assassinée sur un pont à 6 heures du matin, il n'y a personne. Quand vous arrivez, il n'y a plus personne sur le pont. Il y a des voitures qui passent, il n'y a pas de passants. Mais par contre, elle passait là à 6 heures du matin. Donc pendant une semaine, tous les jours, de 4 heures à 8 heures, on était là et on a contrôler et poser des questions à tous les gens qui passaient. On avait prévu un petit laïus par écrit, on leur remettait. Si les gens n'avaient rien vu, ne savaient rien, on les laissait partir, avec quand même notre numéro de téléphone et nos noms pour pouvoir nous contacter. Et au contraire, si les gens en savaient quelque chose, eh bien, on les emmenait comme témoins. Donc ça, c'est la phase immédiate de l'enquête. L'enquête sur la vie de la victime, donc ses proches, sa famille, ses amis, son carnet d'adresse, son téléphone portable. L'enquête sur les circonstances de l'assassinat, c'est-à-dire les constatations, la scène de crime et l'enquête de voisinage. Tout ça doit être lancé, bien sûr, simultanément. Parfois, c'est très simple, parfois, c'est très compliqué. Sur une affaire donnée, au même moment, pendant 2 jours, 3 jours, peut y avoir l'ensemble de la brigade qui travaille. Voire un peu plus, je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, peut y avoir 80, 90, 100 policiers qui ont travaillé sur un homicide en même temps. Ça va dépendre. Il peut y avoir plusieurs victimes, auquel cas les choses sont plus compliquées. Il peut y avoir un grand nombre de témoins. Je prends un exemple. Quelqu'un est assassiné là, tout de suite, devant vous. Et bien, il va falloir entendre les 1000 personnes qui sont dans la pièce. On ne va pas vous convoquer tous les jours, un, pour que le dernier passe dans 3 ans. On va vous entendre séparément, mais le plus vite possible, parce qu'il faut que les témoins aient le souvenir de ce qui s'est passé. Et il faut aussi possible que les témoins n'aient pas communiqué entre eux, puisque après les gens de bonne foi voient un certain nombre de choses. Il faut toujours se méfier de tout. Je vous l'avais dit tout à l'heure, la qualité importante dans l'enquête, c'est le doute. S'il y a un homicide qui se passe là tout de suite, on va avoir 1000 personnes. En gros, l'assassin aura entre 18 et 80 ans, mesurera entre 1m60 et 2m4. Et ça sera déjà pas mal si tout le monde est d'accord pour dire que c'est un homme ou c'est une femme. Donc, il faut savoir que le témoignage n'est pas bon ou mauvais en soi. D'ailleurs, dans l'enquête de voisinage, je vous ai donné cet exemple tout à l'heure de la petite mamie qui a ouvert à une femme, mais c'est vrai qu'il faut donner confiance. Quand vous allez voir un témoin, quand vous interrogez un témoin, il faut qu'il se sente en confiance. Donc il faut prendre un peu de temps pour le voir, pour le parler. Et puis alors vous avez des bons témoins, des mauvais témoins. Non pas que individuellement les gens sont bons ou mauvais, mais par exemple quand le tueur est parti sur une moto, incontestablement, le jeune motard de 23 ans qui était là va vous donner une précision sur la moto plus intéressante que la vieille dame de 85 ans. Au contraire, quand on voudra avoir des détails sur les chaussures qu'elle portait, les femmes sont généralement meilleures que les hommes. Je me rappelle d'une affaire où on avait fait un portrait robot. Il y avait un couple, c'était sur le quai du métro, il y avait eu un assassinat. Et alors l'homme était incapable de dire quoi que ce soit et la femme nous donnait des précisions mais hallucinantes. Et en fait, l'homme avait eu peur. Et s'est dit, putain, pour qu'ils s'en prennent pas à moi. Il avait baissé les yeux, donc il n'avait rien vu. Et la femme, mais ça, c'est pas un secret, les femmes sont toujours beaucoup plus courageuses que les hommes. La femme était portraitiste. Et donc, elle avait regardé. Et quand elle nous a expliqué qu'elle était portraitiste, on savait qu'on avait un bon témoin. Et c'est presque elle-même qui a fait le portrait robot. Donc, on avait quelqu'un qui était habitué à regarder, à figer les choses. C'est en ce sens que je vous dis qu'il y a des bons et des mauvais témoins. Alors après, une fois qu'on a fait toute cette première phase, qui est une phase qui est toujours un petit peu bousculée, alors on a toujours une angoisse au moment du départ, c'est qu'on ait une piste qui soit bonne tout de suite. Alors, en même temps, c'est une angoisse et c'est un espoir. D'avoir une piste qui est bonne, tant mieux, ça veut dire que l'enquête sera plus facile et qu'on arrivera rapidement à la solutionner. Mais alors par contre, à ce moment-là, tout se télescope en même temps et c'est un peu plus compliqué à gérer et c'est là où il faut du monde. Parce que c'est pas parce que vous avez une piste sûre qu'il faut tout laisser tomber. Parce que votre piste sûre, elle est vachement bonne, elle est parfaite, vous arrêtez le type, et puis au bout de 48 heures de garde à vue, ben vous apercevez que ce n'est pas lui. Et pendant ce temps-là, il a quand même fallu que d'autres policiers continuent à travailler, parce que pour récupérer les indices, etc., etc., etc. Donc il importe, sur les enquêtes criminelles, d'avoir du monde, et de pouvoir en débloquer rapidement, et des gens qui soient formés, qui soient bons dans l'enquête. Voilà, ça c'était en gros le départ, je dirais, toute cette phase d'enquête va durer entre 2 jours et 8 jours. Tout en sachant, bien sûr, que les choses peuvent s'interpénétrer. Ce qu'on doit être, c'est le plus adaptable possible. Les affaires ne se ressemblent pas, les milieux dans lesquels on travaille ne se ressemblent pas, vous ne parlez pas de la même façon, vous n'êtes pas de la même... C'est d'ailleurs un des côtés extrêmement intéressants de ce métier, c'est que quand vous parlez à un jeune de cité, qui a parfois 15 mots de vocabulaire, vous ne vous adressez pas à lui de la même façon que si vous avez affaire à des prostituées du Beauvarnais ou que dans le cadre d'un meurtre politique ou terroriste à l'ambassadeur des États-Unis qui en plus parle anglais, donc il faut se débrouiller comme on peut. Donc c'est à nous de nous adapter. C'est pour ça que la tenue des gens de la brigade criminelle, quand ils vont sur place, on essaie d'avoir la tenue la plus passe-partout possible. On a cette réputation d'être élégant, c'est beaucoup dire, disons pour des policiers. Mais normalement, les flics de la crime qui se déplacent sont tous avec une veste et une cravate, parce qu'on ne sait jamais à qui on va avoir affaire, et on va essayer de s'adapter aux gens qu'on va rencontrer. Et c'est un des aspects qui est d'ailleurs intéressant de ce métier et passionnant, c'est d'avoir affaire à des gens dans des milieux différents, qui ont des vies différentes, des existences différentes, et quand on est un petit peu curieux, comme les journalistes peuvent l'être ou autres, eh bien, en dehors du fait criminel, de la recherche du criminel, c'est toujours passionnant de découvrir des choses qu'on ne connaît pas, ou des lieux qu'on ne connaît pas. Alors, l'enquête, une fois que tout ça est bien figé, qu'on a placé sous scellé les taches de sperme et tout ce qu'on peut avoir, l'enquête va non pas commencer, mais se poursuivre. Là, sur un rythme généralement plus tranquille, on va pouvoir réduire un petit peu, plus tranquille, je ne veux pas dire qu'on ne fait rien et qu'on est pépère, mais un groupe de 6 ou 7 fonctionnaires va pouvoir mener sans difficulté une enquête. S'il y a des difficultés, il sera toujours temps d'ailleurs de lui en remettre, mais là, on a fait ce qu'il y avait à faire dans l'urgence et on va commencer l'enquête. Alors, je vous l'ai dit, on en a déjà parlé, la recherche des témoins, les auditions, les témoignages, ça, c'est quelque chose qui est fait immédiatement, mais qu'on peut utilement poursuivre. Un témoin, on peut le voir une fois, deux fois, trois fois, on peut l'entendre rapidement, avoir envie d'une précision et autres. Généralement, en tout cas dans le cadre de l'enquête criminelle, les gens se prêtent de bonne grâce, ils ont quand même conscience que ce sont des faits qui sont importants, parfois de moins bonne grâce, c'est à nous d'essayer de les persuader. Il y a dans les témoignages, alors après il y a les reconnaissances, ce qu'on appelle un tapissage, donc c'est derrière les glaces sans teint, enfin, vous avez vu ça au cinéma, donc on met les gens, donc on fait un groupe, qui est, ça c'est des choses qui sont importantes, parce qu'on ne présente jamais bien sûr un individu à un témoin en disant est-ce que c'est lui. Voilà, on essaye de présenter un groupe qui soit bien sûr un groupe. On ne va pas mettre, si le tueur fait 2 mètres, on va essayer de trouver des policiers ou d'autres gardés à vue d'ailleurs qui font entre 1m90 et 2m3. On ne va pas mettre des nains à côté de lui. Hein. Bon. Donc il faut que les groupes soient à peu près autonomes. Et puis vous avez autour du cou un numéro. Et puis la personne derrière la glace sans teint regarde, reste, écrit sur une feuille de papier un ou plusieurs numéros, parce que les gens aussi, on leur explique, ont le droit d'hésiter. Hein. Il ne faut jamais essayer de faire plaisir à la police. Et puis après, on l'entend par procès-verbal. Bon, là, c'est pareil. Moi, ça m'est arrivé, quand j'avais les mêmes caractéristiques que l'assassin, ça m'est arrivé de faire partie du tapissage, et ça m'est arrivé d'être reconnu. Et ce n'était pas moi. Voilà, donc ça, c'est sur les témoignages. Nous procédons également à tout un tas de perquisitions. Dans le temps du flagrant délit, on va faire des perquisitions chez les gens, chez les suspects, voire parfois chez certains témoins qui peuvent nous cacher des choses. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas directement en lien avec l'affaire criminelle, mais qui veulent protéger, ce qui peut être normal, leur frère, leur petite amie, leur mari, un copain, et donc ils vont garder une arme, un numéro de téléphone ou quelque chose. Les criminels parfois s'enfuient, il faut donc qu'on les recherche une fois qu'ils sont identifiés. Donc on peut être amené à placer des gens en garde à vue, aller en perquisition chez eux pour progresser dans l'enquête. Nous agissons aussi, ça c'est plus du travail de bureau, bien sûr par voie de fichiers, c'est-à-dire qu'il y a énormément de fichiers en France, fichiers d'université, fichiers du gymnase club, fichiers cartes bancaires, etc., etc. Donc en fonction des éléments d'enquête, on va s'adresser par voie de réquisition judiciaire, on va faire un papier, on va requérir une personne de nous donner des informations. Toutes ces personnes participent de plus ou moins bon gré à l'enquête criminelle. Je vous donne un exemple. Un meurtre crapuleux, personne assassinée, on s'aperçoit que sa carte bleue a été dérobée. Peut-être que sous la torture, la personne tuée a donné le code de la carte bleue. On va bien sûr travailler avec les banques et avec les gens de la carte bleue qui vont, par voie de réquisition, on va leur demander de nous signaler à chaque fois que cette carte bleue aura été utilisée, etc. etc., etc. Là-dessus, au niveau des distributeurs automatiques de billets, il y en a certains qui sont équipés de caméras, donc on aura peut-être quelque chose qui ressemblera à une photo plus ou moins exploitable. Bref, faire tout ce travail de réquisition et de travail sur les fichiers. Ça, c'est un travail qui est extrêmement long, extrêmement important. On va s'intéresser au téléphone des gens, qui les appellent, qui ils ont appelé. Bien sûr, parce que généralement, les gens que vous appelez, ce sont les gens de votre entourage, les gens que vous connaissez. Or, on cherche toujours, dans l'enquête criminelle, un lien, parce qu'il existe presque toujours, un lien entre le tueur et sa victime. On va interroger des gens, on va, bref, avoir la vision la plus précise de la victime. Et on ne peut pas s'en tenir uniquement aux déclarations des familles, on ne peut pas s'en tenir des... Bon. D'ailleurs, c'est le côté un peu désagréable, on essaie d'être toujours le plus courtois possible, mais tant que les gens ne sont pas éliminés, ils restent tous potentiellement suspects. Il y a une affaire il n'y a pas très longtemps qui a un peu défrayé la chronique d'une petite fille de 7 ans qui a été étranglée dans un parc. Bon, nous avons arrêté sa mère, elle n'est pas jugée, donc elle est présumée innocente, enfin elle a passé des aveux, elle est actuellement incarcérée. C'est jamais quelque chose de facile quand vous arrivez, pour vous c'est la victime des victimes, on a tué sa petite fille, et que petit à petit, un certain nombre d'éléments vous font penser qu'elle nous ment. Et donc, on la place en garde à vue, puisque la garde à vue est une protection juridique. Puisque une fois que vous êtes en garde à vue, vous avez le droit à avoir un avocat, faire prévenir quelqu'un de votre famille, etc., etc. Donc, on la place en garde à vue, ce qui signifie quand même qu'on la suspecte. Donc, petit à petit, insensiblement, son statut va changer. C'est des choses qui ne sont pas toujours simples. C'est pour ça qu'il faut toujours aussi agir avec un petit peu de recul, parce que on ne sait jamais... quand on va interroger l'ami, l'amant, le mari, l'enfant, le meilleur ami, si on n'a pas affaire à quelqu'un qui est l'assassin ou qui connaît l'assassin. En dehors de ce travail de bureau qui est parfois fastidieux mais qui est toujours extrêmement payant, nous avons recours aussi aux informateurs. Un peu moins dans l'enquête criminelle que dans l'enquête sur le trafic de stupéfiants ou l'enquête sur la criminalité organisée, bien sûr, puisque comme on est dans plusieurs milieux, on ne peut pas avoir de réels informateurs qui sont par définition des voyous qui sont intégrés au sein d'un milieu. Mais par exemple, pour les règlements de compte, on peut avoir des informateurs. Sur certaines affaires, on peut avoir des gens qui nous renseignent. Alors disons, quand ce sont d'honnêtes citoyens, il s'agit de témoins. Quand ce sont des voyous ou des gens qui nous renseignent anonymement, actuellement, sur une affaire, il y a quelqu'un qui nous appuie d'une cabine téléphonique pour donner des informations. Il change de cabine téléphonique. Il a raison. Sinon, on finirait par l'identifier. D'ailleurs, on l'identifiera. Et pour l'instant, ce qu'il nous dit est intéressant, mais évidemment, c'est tout de même que c'est ce qu'on appelle un informateur. C'est quelqu'un qui nous dit, voilà, c'est si, c'est ça, c'est autre chose. Alors pour nous, c'est une piste d'enquête, on ne la privilégie pas, on s'y intéresse quand même. C'est vrai qu'on préférerait le voir de visu pour juger un petit peu de ses motivations. Je vous l'ai dit brièvement tout à l'heure, donc nous procédons aussi par des écoutes téléphoniques, qui sont des écoutes téléphoniques judiciaires, ordonnées par le juge d'instruction, pour une durée de 4 mois. Et donc, nous avons absolument, nous retranscrivons par procès-verbal ce qui se dit au téléphone, et ces pièces-là sont versées au débat. Donc, tout ce qu'on fait est parfaitement limpide. C'est intéressant, par exemple, on a interpellé hier deux personnes dont on pensait être les complices de l'assassin. Nous les avons remis en liberté hier soir, alors qu'ils étaient, nous avons placé sur écoute pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils allaient réagir et comment est-ce qu'ils allaient éventuellement signaler à l'auteur qu'on soupçonnait, qu'on a d'ailleurs arrêté ce matin et qui était en train de passer des aveux au moment où je suis parti de la brigade. Voilà, donc c'était intéressant, c'est toujours intéressant quand les types appellent au téléphone en disant « j'ai été convoqué chez ces salopards, ils savent tout, ils sont au courant, fais attention ». Après, ça nous permet de reprendre ces gens-là et de leur demander ce qu'ils ont voulu dire quand ils ont dit... qu'est-ce que c'est que ces salopards, etc., etc. Nous faisons aussi des surveillances physiques, ce qu'on appelle des planques ou des filoches. On en fait assez peu dans notre domaine, puisque généralement, les surveillances, les planques et les filoches sont faits pour suivre quelqu'un jusqu'à la commission d'un délit. Nous, le délit est déjà commis. Par contre, quand on a un doute, ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, on avait identifié un assassin, il était en cavale, on a pris le parti de suivre sa femme, en espérant que sa femme nous conduirait, sa femme qui nous avait l'air d'être assez solidaire de son mari dans cette affaire. On espérait que cette femme nous conduirait ou aurait un contact avec son mari, ce qui, pour l'instant, n'a pas été le cas. Mais donc, on la suit, donc on fait de la filature. Donc ça, c'est assez dur, c'est assez fatigant. Et puis surtout, si vous voulez suivre quelqu'un 24 heures sur 24, il faut aussi beaucoup de monde. Et puis, vous perdez, vous retrouvez, etc. Enfin, c'est des techniques d'enquête qu'on fait de manière assez régulière. On utilise également tout un tas de personnes qui peuvent nous aider autour. On a parlé rapidement des égoutiers, on parle des chiens pisteurs. C'est important quand un enfant a disparu, par exemple, en l'occurrence pour l'affaire de la petite fille qui avait été tuée dans un parc. On a fait renifler, on a fait venir un chien pisteur, on a fait renifler les affaires et le chien a bien caractérisé le parcours de l'enfant jusqu'au lieu présumé de sa disparition. Ce qui était pour nous assez intéressant par la suite. Donc on n'hésite jamais à faire appel à l'homme de l'art. De temps en temps, Par exemple, pour l'expertise, nous ne faisons pas d'expertise, il n'y a que le magistrat qui peut les faire. Sur un support, on laissera faire le magistrat, bien sûr. Et de temps en temps, par contre, on peut avoir un avis technique qui peut nous aider dans l'enquête. Et là, on fait appel à n'importe qui, on fait appel à un dentiste. Une des premières difficultés de l'enquête criminelle, c'est d'identifier la victime. On est parti du principe que, par définition, la victime était toujours connue. Souvent, elle ne l'est pas. Souvent, la victime est méconnaissable, soit parce que le corps est trop vieux, soit parce qu'il a été volontairement rendu méconnaissable. Main coupée, tête coupée, cadavre carbonisé. Là, on est toujours sûr qu'il y a un lien proche entre la victime et l'auteur. Et d'une façon générale, dès qu'on aura identifié la victime, pratiquement, on aura l'auteur. Quand l'auteur se donne tout ce mal pour cacher l'identification de la victime, ça signifie que l'auteur est assez proche. Et une affaire comme ça, une personne avait été carbonisée, on la retrouve sur une route au fin fond du Val-de-Marne. On a mis 18 mois à l'identifier. Et l'enquête n'a pas avancé d'un centimètre pendant 18 mois. Au bout de 18 mois, elle était identifiée. Dans la semaine, on a arrêté l'auteur. Donc ça, c'est la première difficulté, c'est d'identifier la victime. En fait, la plupart du temps, c'est assez simple. À Paris, parfois, c'est très, très compliqué. On peut garder ce qu'on appelle un cadavre sous X pendant de nombreuses années, voire toujours, puisque nous avons tout de même un certain nombre d'échecs. Alors, on recherche, je vous l'ai dit, une fois qu'on a utilisé toutes ces techniques, toujours le lien entre l'auteur et la victime. Donc, le mobile. Ça peut être un meurtre crapuleux, un meurtre passionnel, un règlement de compte, un meurtre politique, un crime sans mobile. De temps en temps, dans les crimes sans mobile ou dans les crimes sexuels, vous n'avez pas de lien entre l'auteur et la victime. Donc ça, vous ne pouvez pas les inventer, il n'y en a pas. Le crime sans mobile, c'est le fou. On a eu ça il y a quelques années, un type descend dans la rue, et puis il donne un coup de couteau, il remonte. Alors là, la première affaire, vous êtes dans le vent complet, vous ne savez rien, vous pouvez faire une enquête sur une personne de A à Z, vous n'apprendrez rien sur l'auteur. Dans le cas du criminel sexuel, c'est pareil, il y a parfois et généralement aucun lien entre l'auteur et la victime, ce que la presse appelle les tueurs en série, les serial killers. Bon, c'est quelqu'un qui, de manière aléatoire, va s'intéresser à une femme, généralement, parce que les femmes sont plus souvent que les hommes victimes des tueurs en série, et parce qu'il va avoir rencontré, croisé, etc. Et donc vous pourrez faire une enquête extrêmement complète sur la victime, vous n'arriverez à rien. Alors à ce moment-là, on met en œuvre une deuxième technique d'enquête. Une fois qu'on a fait complètement déjà toute cette première phase, c'est qu'on va attendre qu'il y ait, bien qu'on n'attende pas, mais il va y avoir un deuxième ou un troisième homicide. Si c'est un fou, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Et si c'est un tueur sexuel, il n'arrêtera jamais. Il pourra faire 20 ans de cabane, il sortira, il recommencera. Donc on sait qu'il va recommencer. Et là, contrairement aux autres affaires d'homicide, le temps joue contre nous. Finalement, dans les affaires d'homicide, le temps joue pour nous. Le meurtre est figé, on n'est pas pressé, on en magazine tranquillement. Alors que là, on sait, dans le cadre d'un fou ou dans le cadre d'un crime sexuel, je pense d'ailleurs que les gens qui font des crimes sexuels sont des fous, mais quand je dis un fou, c'est un délirant, quelqu'un qui descend parce que Napoléon lui a dit qu'il poignarde quelqu'un, alors que le psychopathe, le criminel sexuel, n'est pas du tout ni un fou ni un délirant. C'est quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il fait, mais qui a des pulsions qui sont des pulsions qui sont anormales. Alors là, on va avoir plusieurs victimes et l'enquête va se développer par faire une recherche, un croisement entre les victimes. Par exemple, vous avez trois victimes, trois femmes qui ont été victimes d'un tueur en série. Est-ce qu'elles habitent la même adresse? Oui, non. Est-ce qu'elles ont le même métier? Vous allez vous apercevoir en faisant des questionnaires qui sont assez complets et assez difficiles d'ailleurs à mettre en œuvre, parce que la victime, par définition, est déjà morte, on va essayer de trouver un point commun. Par exemple, on va s'apercevoir qu'elles fréquentent la même piscine, alors qu'elles n'ont aucun autre point commun. Donc, on pourra considérer comme piste d'enquête que le tueur identifie ses proies et s'intéresse à ses proies, à ses futures victimes, à partir de la piscine, ou à partir d'un club de sport, ou à partir d'une bibliothèque. On va s'apercevoir qu'elles ont fait appel au même livreur de pizza, etc., etc. Donc, en croisant toutes ces informations générales, ça va nous permettre de resserrer l'enquête, non plus sur la victime, mais sur un auteur potentiel qui fréquente la piscine ou qui fréquente la même salle de gym, chose comme ça. Et puis alors, malheureusement, de temps en temps, là c'est la troisième type d'enquête criminelle, vous pouvez avoir 4 ou 5 victimes que vous identifiez comme étant l'œuvre du même assassin. Là aussi, l'ADN nous aide beaucoup. parce que la scène de crime est parfois différente, mais parfois l'ADN ou les empreintes nous permettent de relier des affaires de manière systématique entre elles. À ce moment-là, quand il n'y a pas de lien entre les affaires, c'était le cas par exemple pour Guy Georges, il n'y avait aucun lien entre les victimes, il se promenait dans la rue, voyait quelqu'un, boum, c'était parti. Donc c'est la troisième enquête, la plus longue, la plus difficile, la plus aléatoire. On essaye d'avoir une espèce de portrait psychologique, psycho-juridique de l'individu. Par exemple, pour Guy Georges, on est parti de l'hypothèse que c'était forcément quelqu'un qui était déjà connu des services de police, ce qui est toujours le cas pour les criminels sexuels et les tueurs en série, et qu'a priori, il avait déjà dû, avant de commencer ses actes de torture et de mort, déjà violé et probablement déjà avec un couteau. Donc on s'est intéressé à tous les gens qui avaient été condamnés et qui étaient sortis dans les 10 dernières années sur viol avec couteau. Et là, on part d'une base de données de plusieurs milliers de personnes, de plusieurs milliers d'auteurs potentiels. Et petit à petit, on les élimine les uns après les autres jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes criminelles qui durent 5 ou 6 ans, parce que c'est extrêmement long. C'est pour nous, bien sûr, la situation la plus difficile, et la plus difficile en plus en termes d'enquête, mais également à vivre. Parce que constamment, vous avez dans la tête, le groupe a dans la tête, que ça peut recommencer. Et là, à chaque fois que vous avez une victime nouvelle, vous vous le reprochez. Pour supporter ça, et ça c'est une petite parenthèse, il faut se reposer sur le groupe. Il ne faut jamais se sentir propriétaire d'une affaire, il ne faut pas se sentir investi d'une mission divine, il faut essayer de ne pas trop personnaliser les choses, même si c'est parfois pas facile, notamment quand il y a des meurtres d'enfants, des meurtres particulièrement atroces. Et il faut que la charge psychologique de l'homicide ne pèse pas sur un enquêteur, mais pèse, et à plus forte raison quand c'est déjà un crime particulièrement odieux, sur plusieurs enquêteurs, voire plusieurs dizaines d'enquêteurs. Parce qu'il y a un moment où les gens en ont marre, en peuvent plus, il faut pouvoir les détacher, qu'ils fassent autre chose, qu'ils prennent un petit peu de vacances pour revenir, etc. Il n'est pas sain qu'un policier ou qu'une personne porte une affaire criminelle de cette envergure sur les épaules. C'est ça qui détruit les gens et qui ont poussé certains enquêteurs à quitter les services de police, voire à se suicider. Alors enfin, une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a eu des témoins, on a recherché les liens qu'il pouvait y avoir entre la victime et l'auteur, qu'on a un mobile, qu'on a tout un tas de faisceaux, eh bien, on a identifié l'auteur. On l'a identifié, on sait ce qui s'est passé, on sait pourquoi. Donc, on va procéder à son interpellation. L'interpellation de l'auteur est normalement le dernier acte de l'enquête criminelle. Quand on a tout fait, qu'on l'a identifié, qu'on a le maximum d'informations, parfois donc, alors qu'on l'a identifié, c'est pas toujours facile à comprendre, on l'a identifié à un moment, on va ne l'arrêter que 15 jours ou 3 semaines après, sauf naturellement dans le cas d'un criminel sexuel, auquel cas là il y a une urgence particulière, mais parce qu'on va attendre la rentrée de toutes les expertises. On avait pris l'assassinat de quelqu'un qui avait été retrouvé lardé de coups de couteau à l'intérieur du coffre de sa voiture, il avait dans les mains des cheveux longs, on soupçonnait une femme de l'avoir tué, on a très rapidement, on l'a soupçonné, on a attendu que le laboratoire soit capable de caractériser l'ADN de ce cheveu, qui était donc, parce que ça nous fait incontestablement dans l'interrogatoire qu'on va avoir avec l'auteur, ça nous fait des billes, comme on dit en matière de police judiciaire, pour discuter avec lui. Donc on va l'interpeller, c'est la phase délicate du travail de police, la phase dangereuse. Nous, à Brigade criminelle, on n'arrête par définition que des assassins ou des terroristes, deux mots, surprise, surnombre. Si on a la surprise et le surnombre, tout se passe bien, l'arrestation se passe bien. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne arrestation ? C'est une arrestation sans violence, sans blessure, de part et d'autre, sans coup de feu. Notre travail est d'arrêter des gens et de les déférer en pleine santé devant les magistrats. Surprise, surnombre. Quand il vous manque un des deux, c'est un petit souci. Et quand vous avez ni la surprise, ni le surnombre, vous allez à la catastrophe. Après, il est placé en garde à vue. Et là, c'est le moment un petit peu, le moment difficile. Le moment final, c'est les 48 heures de garde à vue. Parce qu'en tout et pour tout, le policier enquêteur, qui aura passé plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur une enquête, n'aura accès au tueur présumé que pendant 48 heures. Au bout des 48 heures, 24 heures, renouvelable par le juge d'instruction ou le procureur de la République, donc 48 heures, il sera déféré devant le juge d'instruction qui le mettra en examen. Et à partir du moment où il sera mis en examen, il ne pourra être entendu que par le juge d'instruction et en présence de son avocat. Donc nous avons cette phase très courte de garde à vue pendant laquelle on va essayer d'obtenir des aveux. Souvent, les gens n'ont pas tellement envie d'avouer. Et nous sommes là pour les y aider. Alors, je vous vois sourire, mais c'est pourtant très exactement le cas. Et il faut voir ce que c'est qu'une scène d'interrogatoire à brigade criminelle, parce que là, je pense que c'est dans l'interrogatoire que dans la fiction, on voit le plus de choses éloignées de la réalité. Un interrogatoire, c'est un moment d'intimité entre deux hommes, celui qui enquête et l'assassin. Et c'est un moment de discussion. En France, et c'est très bien ainsi, on ne torture pas les détenus, on ne leur pose pas la question, on ne leur met pas les brodequins. Et objectivement, ils n'ont pas toujours intérêt à avouer, et même rarement, mais parfois, ça peut les aider, eux, à soulager leur conscience. Un certain nombre d'assassins, ce n'est pas le cas, par exemple, parmi les voyous professionnels, quand vous êtes à la brigade de répression du banditisme, vous n'avez jamais d'aveu. Les voyous, ils savent bien qu'il ne faut pas avouer, ils attendent, ils vont en prison, ils verront leur avocat, qui verra ce qu'il y a dans le dossier, on verra après. Mais les assassins ne sont pas tous des voyous, loin de là. Il y a des gens qui portent difficilement le fait d'avoir tué quelqu'un, aussi curieux que ça puisse être. Et c'est ce lien qu'il faut réussir à créer. Donc, 10 enquêteurs autour d'un type qui a les lampes comme moi ce soir dans les yeux, qui tournent autour de lui, le gentil, le méchant, dis-nous la vérité, bon, on recommence, tout est zéro, etc., chose qui n'existe pas. Donc, se mettre dans un coin un enquêteur, parfois deux, plus le gardé à vue, et là, il y a une première discussion. On part de loin, on discute. Ce qu'il faut, c'est que le type ou la femme accepte de continuer à nous parler. Il faut qu'il y ait un lien. Donc évidemment, on ne va pas les effaroucher. Parfois, il y a un refus d'accepter l'horreur des choses qu'ils ont commises. Donc on va lui dire, bon, c'est toi qui as tué, non. On va d'abord commencer à parler de lui, sa grande identité. Et quand on veut savoir, par exemple, ce qu'il a fait aujourd'hui à 15h, on va commencer par lui demander ce qu'il faisait ce week-end, en début de semaine. Bref, petit à petit. On va lui laisser dire tous les mensonges qu'il veut. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'interrompre, on ne va pas lui dire « Ah, tu nous mens », etc. On va faire le premier PV, plus il nous racontera de mensonges, mieux ça sera. Parce qu'on le sait, et il va signer ses mensonges. Quand il va nous dire « Mais moi, cette personne, je ne l'ai jamais vue de ma vie, je n'ai jamais été chez elle. » Très bien. Comment pouvez-vous expliquer à ce moment-là qu'on trouve vos empreintes digitales sur le réfrigérateur ? Il ne faut pas lui dire tout de suite. Il faut laisser les choses faire tranquillement et tirer. C'est un petit peu... Je ne voudrais pas utiliser d'ailleurs trop de métaphores sportives, j'ai déjà parlé d'équipe de rugby, mais quand vous faites de la pêche au gros, il faut ramener doucement, si vous faites ça de manière un petit peu sec, vous cassez le fil. Donc c'est une discussion. Par contre, celui qui interroge va tourner. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres dans les aveux, pour avoir les aveux de quelqu'un, bien sûr, mais ça dépend. Il y a des gens qui vont parler plus facilement à une personne un peu ancienne, d'autres plus facilement à un jeune, d'autres plus facilement à une femme. Donc au départ, on choisit la personne qui, semble-t-il, est le mieux placée pour interroger. Si ça se passe bien, personne d'autre n'interrogera l'assassin. Si ça se passe mal, à ce moment-là, on va changer. Une fois, deux fois, trois fois. On va essayer un grand, un petit, un vieux, un jeune, une femme, un homme, jusqu'à ce qu'il y ait ce fit. Et souvent, c'est d'ailleurs dans les heures un peu avancées de la nuit, quand tout est calme, qu'on a le plus d'aveux. Et l'aveu soulage. L'aveu soulage tout le monde. Soulage les enquêteurs, soulage l'assassin. Et ça vient corroborer tout le travail, c'est pas la reine des preuves, nous n'avons pas l'obsession de l'aveu, mais c'est quand même toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui va s'expliquer. En plus de ça, le travail d'enquête est un travail un peu d'historien, c'est-à-dire qu'on réfléchit à partir d'une scène qu'on n'a pas vécue, qui est une scène du passé, et on essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Et quand on comprend ce qui a pu se passer, qu'on se fait notre idée là-dessus, et que l'assassin nous confirme ça, c'est professionnellement quelque chose qui n'est pas inintéressant. Voilà, j'en ai fini de mon propos. J'ai été un petit peu plus long, mais on m'avait donné l'autorisation de me dépasser, ce que je n'ai pas hésité à faire, et je me tiens à votre disposition.
Je suis toujours étonnée quand, dans un journal, le lendemain d'un crime, on voit un petit entrefilet, par exemple, il y a 10 jours, le fils, un des fils de Norodom Sihanouk a été trouvé mort chez lui dans le 13e. Alors je me demande qui livre cette information et après, qu'est-ce qui se passe de cette information, parce qu'après, plus jamais on en entend parler dans un journal quelconque. Enfin, moi, je n'en entends pas parler.
Ah, ça, c'est un problème qui est extrêmement important et compliqué, c'est les relations avec la presse. En France, vous avez une presse qui est libre, qui est pugnace, avec des enquêteurs qui sont spécialisés dans les faits divers et dans l'enquête criminelle, que ce soit les enquêteurs de télévision ou autres, et qui ont des sources d'informations et qui veulent savoir, ils font des enquêtes, parfois d'ailleurs ils font des enquêtes parallèles à la nôtre, parfois ces enquêtes ne nous gênent pas, parfois elles nous gênent. De toute manière, vous apercevez que les journalistes, sur les affaires un petit peu sensibles, écrivent. Donc juridiquement, il y a une possibilité pour le procureur de la République de faire des points presse, de communiquer des informations, des informations qui d'une façon générale, et on essaye de faire en sorte qu'elle ne gêne pas pour l'enquête. Disons que toutes ces fuites, tout ce qui est écrit dans la presse, d'une façon générale, ça nous gêne. Ça gêne les enquêteurs, mais c'est malheureusement un mal nécessaire. Une fois qu'on a dit « mon Dieu, c'est horrible », on n'y peut rien. Les journalistes écrivent, ils font leur boulot. Vous avez des informations par les journaux, c'est comme ça que vous savez ce qui se passe. C'est comme ça que moi, j'apprends ce qui se passe sur tout un tas d'affaires. Pas celle dont je suis saisi, je vous rassure. Mais jusqu'à une date récente, c'est un peu pour l'anecdote, jusqu'à une date récente, il n'y avait pas de lien qui était fait systématique entre les affaires, par exemple en France ou à l'étranger. Exemple, je prends une affaire un petit peu caractéristique à Paris, la même affaire ou le même type d'affaire est traité par les gendarmes à Toulouse, et puis une troisième affaire extrêmement semblable se retrouve traitée par la police judiciaire de Strasbourg, et puis une quatrième par la Special Branch à Londres de Scotland Yard, eh bien, je n'avais pas les moyens, moi, service de police, de faire une relation entre ces quatre dossiers. Et souvent, les relations étaient faites en lisant la presse. Maintenant, depuis, mais ça c'est récent, hein, puisque ça a été mis en œuvre de manière opérationnelle depuis le 1er janvier 2003 seulement, il y a une cellule qui s'appelle le SALVAC, système d'analyse de la violence des liens associés au crime, qui fait, sur l'ensemble de la France, qui est destinataire d'une espèce de livret de QCM que tous les enquêteurs remplissent, qui est destinataire sur l'ensemble de la France, et demain j'espère sur l'ensemble de l'Europe, de tous les assassinats, et qui seront chargés de faire des liens entre ces affaires. Ce n'est pas un service d'enquête, mais c'est un service qui systématiquement lèvera le doigt et nous dira « Tiens, l'affaire dont vous avez été saisie là, elle ressemble beaucoup, par le mode opératoire, par des liens, etc., à une affaire de la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse. » Et à ce moment-là, les enquêteurs pourront, sans lire la presse, se mettre en relation les uns avec les autres, échanger des informations, et par là même, on aura donc deux affaires d'homicide, et si c'est le même tueur, ça nous donnera forcément pas mal d'informations les uns et les autres. Donc la presse a quand même incontestablement de bons côtés, et de toute manière, la presse est libre, ils écrivent, c'est normal, c'est le jeu de la démocratie.
J'aimerais très simplement avoir une information quant à la formation des intervenants au niveau de la brigade des mineurs, notamment sur Paris, puisqu'en fait, j'ai donc appris que ma fille avait été victime d'agressions sexuelles incestueuses. J'estime toujours aujourd'hui en 2003, même si cette affaire date de 1995, que les inspecteurs de police manquent de formation, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, cette affaire a été classée sans suite à deux reprises par un procureur de la République. Il en prend sa responsabilité. Et j'espère que le ministère et l'État français prendra ses responsabilités, puisqu'aujourd'hui, un certain nombre d'enfants sont victimes d'agressions sexuelles incestueuses et que nombreuses sont les mères qui sont aujourd'hui condamnées à des peines de prison, très simplement parce qu'elles protègent leurs enfants victimes d'inceste. Que l'ONU, aujourd'hui, menace de porter plainte contre l'État français pour non-assistance à personne en danger. Et cela veut dire non-assistance à personne en danger, ça implique et les mamans et leurs enfants. Donc moi, j'avais envie de savoir un petit peu comment sont réellement formés les enquêteurs de la brigade des mineurs de Paris, notamment, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de cas sur Paris où, effectivement, les enfants continuent d'être en danger, mais c'est aussi sur le territoire national français. Voilà, merci de me répondre.
Je vais malheureusement pas pouvoir vous répondre de manière complète pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il ne vous aura pas échappé que je n'ai jamais été à brigade des mineurs et que ce n'est pas ma spécialité. Mais je ne vais pas me défausser comme ça. La Paris, la brigade des mineurs, a un gros avantage, c'est que c'est elle qui est compétente pour l'ensemble des affaires des mineurs victimes. Ce qui fait que les policiers de la brigade des mineurs, qui sont d'ailleurs pour l'essentiel en grande majorité des femmes, elles-mêmes étant des mères de famille, sont des gens qui n'ont pas de formation spécifique. Ce sont des officiers de police qui ont une formation d'enquêteurs, qui sont aidés par des psychologues, par des psychiatres, tout ça sous l'autorité de juges spécialisés, enfin vous savez ça, des juges pour enfants, et qui sont amenés à traiter ces dossiers-là. Leur principale efficacité réside dans le fait que ce sont des gens qui sont des spécialistes et qui voient énormément d'enfants, énormément de papas, énormément de mères, et c'est vrai que les affaires d'inceste sont des affaires qui sont toujours extrêmement délicates et extrêmement sensibles. Voilà, je ne peux pas vous en dire tellement plus, on peut toujours imaginer que la formation peut être meilleure, on peut toujours imaginer, mais chacun porte ses doutes, ses souffrances, l'erreur existe, et je ne peux pas malheureusement vous raconter tellement d'autres choses, d'autant plus qu'on s'éloigne un petit peu du cadre strict de mon intervention.
J'aimerais savoir si vous utilisez des techniques de profilage, comme peuvent le faire vos homologues anglo-saxons, ou est-ce que ça participe encore de la fiction en France ? Merci.
Alors, je vais vous répondre oui et non. Ce sont les Américains qui, les premiers, ont mis au point les méthodes de profilage. Ils se sont aperçus qu'ils avaient un certain nombre de tueurs en série qui avaient l'habitude de passer d'un état à l'autre, et donc chaque petit service de police isolé traitait isolément les cas. La première chose qu'ils ont fait, c'est de réunir au sein du FBI des policiers spécialement formés et qui ont rentré dans leur ordinateur par intermédiaire du VICAP, qui est la version américaine du SALVAC dont je vous parlais il y a un instant, toutes les affaires d'homicide pour faire des liens entre elles. Puis après, ils ont développé une technique personnelle, ils ont été interrogés tous les tueurs en série arrêtés pour essayer d'avoir une meilleure connaissance. Et enfin, ils ont créé cette unité des sciences de comportement, qui parfois d'ailleurs peut montrer certaines limites. C'est en tout état de cause une piste qui est extrêmement intéressante. On a vu se développer de manière très anarchique des profileurs autoproclamés. Tout d'un coup, il y a des gens qui ont levé le doigt et qui ont dit « je suis profileur ». Bon, vous avez des gens qui n'avaient aucune expérience judiciaire, ni psychiatrique, ni psychologique, qui n'avaient jamais vu ni un cadavre, ni un assassin de leur vie, et qui s'auto-proclamaient profileurs. Ça nous a posé un petit problème au départ. À la brigade criminelle, il y a une femme qui est psychologue, une psychocriminologue, qui est affectée à la direction de la police judiciaire, et dont on se sert quand on en a besoin sur un certain nombre d'affaires. Mais de toute manière, je pense que ce problème de profileur va s'arrêter très rapidement avec... tout ce qu'on a pu raconter, ce que c'est vrai, ce que c'est pas vrai, ce sont des escrocs. Je parle de... Il y a des gens sérieux ou qui essayent d'être sérieux. Il y a aussi des gens qui font dans la voyance. Je suis profileur, j'ai des flashs. Bon, là, il faut quand même être sérieux. J'avais un adjoint qui avait coutume de dire « Le crime ne paie pas, mais fait vivre de nombreuses personnes. » C'est vrai que quand vous êtes une victime, et là, on a tous été des victimes, on a tous tout tas de choses. Quand vous êtes une victime... y compris d'une maladie, vous êtes prêt à tout. Quand vous voyez que les services publics, l'hôpital, la police, n'arrivent pas à vous soulager, n'arrivent pas à arrêter le violeur de votre petite fille, l'assassin de votre mari, etc., vous êtes prêt à tout, y compris à faire venir des charlatans, des escrocs et des types qui vont vous piquer votre pognon juste pour s'amuser et qui n'en feront rien d'autre. Alors aujourd'hui, les choses sont un petit peu réglées. La chancellerie et le ministère de la Justice s'est pensé sur le cas des profileurs, a expliqué que ça va s'appeler d'ailleurs analyste comportemental, a expliqué que ce serait nécessairement des officiers de police judiciaire, puisqu'il fallait qu'ils participent à l'enquête, donc des policiers ou des gendarmes, qui auraient par la suite une formation spécifique, et qui probablement, bien que les choses ne soient pas dites exactement comme ça, mais la seule place qu'ils pourront avoir, en tout cas, à mon avis, c'est auprès de cette unité de synthèse nationale qu'est le SALVAC. Donc moi, je pense qu'au SALVAC, il y a d'ores et déjà d'ailleurs un psychologue et puis des policiers qui sont là pour faire des liens, et puis quand on aura besoin... d'un profileur, ce qui est assez rare finalement, puisque des affaires de tueurs en série, il y en a beaucoup, mais il n'y en a quand même pas tant que ça en France. Je veux dire, ça ne va pas être un travail à plein temps. Une fois que vous aurez 3 analystes comportementaux pour l'ensemble de la France, je pense que ces choses-là suffiront. Auprès du SALVAC, on aura ces profileurs à la française. Les choses devraient se mettre en place assez rapidement.
J'aimerais savoir quel est le nombre de femmes qui travaillent à la police judiciaire dans les groupes dont vous avez parlé.
Alors, à la police judiciaire, je ne pourrais pas vous donner le décompte.
Brigade criminelle,
alors, à la brigade criminelle, c'est plus simple. Bon, il faut savoir qu'en gros, maintenant, on va vers une parité, pas à la brigade, hein, mais on va dans la police vers une parité à peu près absolue homme-femme. Donc, à terme, il y aura probablement, encore qu'il y ait des services où il y aura toujours probablement un peu plus d'hommes que de femmes, mais il y aura de plus en plus de femmes dans les services. Au jour d'aujourd'hui, sur les 105 fonctionnaires, il y a à peu près une vingtaine de femmes.
Je voudrais savoir comment ça se passe lorsqu'il y a des liens avec l'étranger. Est-ce que vous coopérez avec des brigades criminelles qui sont à l'étranger, dans des pays limitrophes? Et comment ça se passe pour vous partager les tâches, si je puis dire?
Alors, bien sûr, on travaille souvent avec l'étranger pour deux raisons. D'une part, nos assassins peuvent être originaires de pays étrangers, donc ils peuvent nous donner des informations. Ils peuvent aussi s'enfuir dans les pays étrangers. Il n'y a pas très longtemps, il y a un type qu'on a été chercher à Pékin. Donc, les Chinois n'ont pas voulu nous le rendre, mais s'ils ont décidé de le juger eux-mêmes, puisque l'homme est chinois et la loi chinoise leur permet de le juger, mais on a quand même pu l'entendre. Et puis également, à la brigade criminelle à Paris, nous sommes compétents pour les affaires domicile de Français tués à l'étranger. Alors en fait, on fait toujours des doubles enquêtes. C'est-à-dire que nous, on a notre enquête française, le juge nous délivre une commission rogatoire internationale et on va sur place pour faire une enquête. Mais quand je dis faire une enquête, c'est exagéré, bien sûr, puisqu'en fait, on est complètement tributaire des policiers locaux. C'est-à-dire qu'on n'a aucun pouvoir d'enquête à l'extérieur des frontières. Et donc, les policiers locaux nous accueillent. Et c'est eux qui font les actes en notre compagnie. Voilà comment ça se pratique. Mais c'est quelque chose qui est très régulier et qui fonctionne parfois très bien. Ça dépend des pays, ça dépend des périodes. Parfois moins bien, parfois pas du tout.
Merci, Monsieur Pechenard.